dispersion, toujours sur Néhémie, et nous sommes arrivés à Néhémie 6. Néhémie 6, maintenant on va regarder du verset 1 jusqu'au verset 14. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, déchaîne l'arabe, et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'ont fait parvenir ce message. « Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée de Nous. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. « J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. » Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sambala m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. » J'ai fait répondre à Sambala. « Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. » Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras. Et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaja, fils de Delaja et petit-fils de Meyetabel. Il était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi, prendre la fuite, du reste, un laïc tel que moi, pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait une prophétie sur moi, parce que Sambala et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur. Pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sambala en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à me tuer. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as dit qu'en celui qui croit, des eaux vives couleront en lui, Seigneur. Seigneur, nous te demandons ce matin que cette parole soit les eaux vives qui vont couler en chacun d'entre nous, Seigneur, après l'avoir entendue et après l'avoir mise en pratique. Seigneur, nous dénonçons les œuvres de l'ennemi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de protéger chacun d'entre nous ici présents. Et nous savons, Seigneur, nous avons foi, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu exauces nos prières, parce que nous te le demandons avec foi, et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre épisode pour Néhémie, c'est toujours les mêmes qui viennent pour l'attaquer, Sambala, Tobija et Geshem, sont déjà connus dans les versets précédents, mais ici encore, ils viennent vers Néhémie en disant des accusations contre lui. Dans le livre de Néhémie, on voit que Dieu, selon sa grâce, va susciter pour chacun d'entre eux une mission précise. Pour Néhémie, c'est de reconstruire les murailles. Mais pour quelqu'un comme Esdras, ce sera de rebâtir les parties du temple qui étaient en danger. on voit ici que les trois qui s'attaquent à Néhémie utilisent comme leur maître le diable, ils utilisent la ruse contre Néhémie. C'est très rusé de dire à quelqu'un, viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée de Néhémie. Si quelqu'un vous appelle un jour pour vous dire, on peut se rencontrer pour parler d'une situation sur laquelle c'est toi qui es en danger. Je ne pense pas que le premier réflexe serait de se dire que c'est un piège. Esdras a vécu la même chose. Vous voyez comment on peut voir que le diable se comporte toujours de la même façon lorsqu'il attaque par le mensonge. Dans Esdras 4, les versets 12 à 13, il nous est dit, je peux même commencer au 11, « Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les habitants de la région située à l'ouest de l'Euphrate, voient, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de nous à Jérusalem reconstruisent cette ville rebelle et mauvaise, on relève les murs et on restaure les fondations. Vois, tu dois maintenant savoir que si cette ville est reconstruite et ses murs relevés, ils ne paieront ni taxes, ni impôts, ni droits de passage, et cela portera préjudice au trésor royal. » Pour Esdras, il était accusé auprès du roi. Néhémie est aussi accusé par la ruse de Sambala, et ils vont même loin. Ils posent trois fois la même question. Néhémie répond trois fois de la même façon. J'aime les séquences de la Bible parce que ça nous rappelle comment rester ferme dans une situation qui peut te faire peur. Néhémie répond trois fois de la même façon. Et trois fois, il a la même question. Et enfin, la quatrième question, une autre ruse apparaît. Là, maintenant, ils changent. Ils disent, dans le verset 6, « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Viens donc pour qu'on tienne conseil. » Là, l'accusation est très forte. Parce qu'en ce temps-là, puisque cette partie du territoire était en fait sous domination des Babyloniens, Néhémie se retrouve face à un autre piège. Si on dit qu'il doit devenir roi, comment doit-il se défendre? Et soi-disant, il y a même des témoins. Il y a même des témoins face à cette situation. Mais voyez-vous, Sambala est très subtil. Parce qu'en fait, le livre de Néhémie a quasiment été écrit en même temps que le livre de Malachie. Or, dans le livre de Malachie, dans le milieu juif, parce que les Juifs avaient des prophètes et ils écoutaient les prophéties des prophètes, parce qu'en fait, Dieu parlait à travers les prophètes. Dans Malachie 3, versets 1 à 3, il nous est dit, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un peu plus purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs, comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. » Le diable n'a pas changé dans ses attaques, parce qu'on voit que Sambala et ses amis connaissent la parole. Ils connaissent la parole. Ils savent que Malachie annonce le Messie qui va arriver. Et ils vont utiliser ces textes pour montrer au roi que « Mais tu as laissé Néhémie travailler. » Mais à un moment ou à un autre, Néhémie va usurper ta place. Ça nous rappelle Matthieu 4, les tentations du Christ. Le diable commence par parler de Dieu. Ensuite, il utilise la parole. Il va prendre le psaume 91, verset 11. Il va utiliser la parole de Dieu pour dire, mais si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Christ va répondre, il est aussi écrit. Je remercie le Seigneur parce que lorsqu'on lit ces textes, on peut se demander, mais comment Néhémie fait-il pour savoir que Geshem et ses amis sont des menteurs? Vous remarquerez que dans les versets précédents, Néhémie était quelqu'un qui priait beaucoup. Le discernement vient par la prière. C'est parce qu'on est en contact avec Dieu qu'on peut déceler très rapidement les ruses du diable. Si on ne prie pas, si on ne se met pas à chercher la volonté de Dieu, si on ne lit pas la parole de Dieu, attention, parce que là aussi, Néhémie va avoir une réponse très claire sur une accusation, parce qu'en fait, Néhémie va leur dire, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles, c'est toi qui les inventes de toutes pièces. La réponse est saillante. Très difficile de reporter à ça. Dieu avait mis en Néhémie du discernement parce que Néhémie cherchait la face de Dieu. Mes chers amis, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, Dieu nous demande de le chercher dans nos décisions. Il nous faut beaucoup de discernement. Et pour discerner, il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut te montrer en fait comment tu dois répondre. Apprendre sa parole, c'est une véritable base. Parce qu'en fait, des fois on se demande, mais Dieu me parle pas. Des fois l'homme dit, mais Dieu me parle pas. C'est surprenant, hein. On peut se dire, mais Dieu ne me parle pas. Et pourtant, lorsqu'on voit plus de tout ce livre qui a été écrit rien que pour toi, la Bible a été écrite rien que pour toi. Dieu te parle à toi, à travers la Bible. Et cet homme, Néhémie, connaissait bien la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de connaître la parole de Dieu. Et même lorsqu'on lit un chapitre par jour, ce n'est pas très suffisant. On peut augmenter pour mieux connaître la parole. Parce que, mes chers amis, sans la connaissance de la parole de Dieu, il est très difficile d'échapper aux ruses de l'ennemi. Voici comment Jésus parle de cette question. Jésus qui est toujours très précis. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il propère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce que dit Jésus ici est difficile à entendre. Parce qu'en fait, Jésus fait un lien direct entre celui qui ment et le diable. Il y a un lien direct. Si tu mens, tu es fils du diable. Parole de Christ. Mais qui d'entre nous n'a jamais menti? Ah, le Seigneur est bon. Voici la restauration dans laquelle le Seigneur nous emmène. C'est-à-dire qu'il faut oublier les mauvaises façons d'agir dans le temps pour être transformé par sa parole. Ainsi donc, on peut voir, on peut croire que c'est une nouveauté dans ce que le Seigneur, dans ce que Jésus dit. Il n'y a pas de nouveauté parce que dans Exode 20, vous avez les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est dit, tu ne mentiras pas. Jésus est la parole. Il ne fait que la répéter à l'homme. Mais il la répète en étant en action. Parce que c'est lui qui accomplit la parole. Donc vous comprenez que pour nous, pour tous ceux qui ont choisi le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, le mensonge doit être complètement éloigné de nos vies. Un jour, avec le Préado, il y a quelques années, sur le mensonge, la question est venue. Si tu es dans une situation où tu peux sauver quelqu'un, dois-tu mentir ou pas? si tu as un voisin de palier juif, on est en 1940, les Allemands ont pris Paris, sans bataille. C'est une frustration en France. La France n'a pas combattu. Les Allemands entrent avec des chars. On cherche les Juifs. T'as un Juif en face de chez toi. On toque à ta porte, la Stasi, police allemande. Déjà, leurs uniformes étaient très impressionnants. Tu as peur. Et on te demande, est-ce qu'il y a des Juifs dans l'immeuble? Que dois-tu faire? Que dois-tu faire en tant que croyant? Tu ne dois pas mentir. Gloire à Jésus. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas mentir parce que désormais tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le mensonge doit fuir de nos vies. Le mensonge ne peut avoir sa place. Parce que vous voyez que le mensonge détruit. J'aime Jésus parce qu'il a dit que Satan est meurtrier depuis le début. Pourquoi meurtrier? Parce qu'il a menti. Parce qu'il ment. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mensonges. Lorsque tu prends une décision, si tu n'as pas cherché la face de Dieu, comme le faisait Néhémie, la Bible te dit que tu agis par la chair. On peut avoir des bonnes intentions, mes chers amis. On peut penser que ce qu'on veut faire est une bonne chose. Encore faut-il le soumettre à Dieu. J'aime le Seigneur parce que sur le discernement, j'ai vécu beaucoup de situations personnelles dans lesquelles j'ai vu la main de Dieu dans l'enseignement. Il y a quelques années, je ne sais pas si Navek s'en souvient peut-être, il y a quelques années, Navek avait trouvé une école d'informatique. Et il est venu me voir en me disant, ah, regarde, c'est une belle école et tout. Cette école-là, je vais sortir, il y aura un diplôme. Et avec ce diplôme, en tout cas, je serai un bon informaticien. La première réaction que j'avais, c'était de lui demander combien ça coûte. Quand j'ai vu le prix, je lui ai dit, mais Navek, c'est pas concevable. Tu ne peux pas payer aussi cher une école. Juste un an, plus de 7000 euros. Mais comment est-ce possible? C'est trop cher. Vous voyez la réaction de la chair? Il est allé dans cette école. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas difficile pour lui pour retrouver un emploi. Parce que justement, cette école a permis qu'il ait un bon diplôme. Je remercie le Seigneur. Vous voyez le discernement? C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis mis à genoux et je lui ai dit, oui, Navek, tu as dit ça, mets-toi à genoux. On va prier le Seigneur pour savoir sa face. Non, moi, j'avais déjà sa face. Et quand tu réponds de façon instinctive, c'est que tu n'as pas de discernement. Néhémie, lorsqu'il parle au roi, il prie. Le roi lui pose une question. Quand un roi te pose une question, vous avez aujourd'hui, Monsieur Macron qui vient vous voir, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que ta première réaction va être de prier? Est-ce que ta première réaction va être de lui apporter l'évangile? Vous comprenez, le discernement, c'est de regarder les choses d'en haut. Parce que les choses d'en bas, vous savez que la Bible dit dans Romains que celui qui a accepté Jésus est devenu un roi. Tu es devenu un sacrificateur. Et vous savez que lorsque Dieu regarde la terre, il regarde les rois qu'il a sur la terre. C'est pas les présidents qu'il regarde, hein. Il regarde ses enfants. C'est ça qui fait que Dieu regarde encore cette terre. C'est parce qu'il a encore des enfants sur cette terre. Il ne regarde pas le président des États-Unis. Il ne regarde pas le président de la Corée. Mais il regarde celui qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et il écoute ta prière. Vous vous rendez compte? Dieu écoute la prière de son enfant qui est là, en bas, en train de chercher sa face. Je remercie le Seigneur. Parce que malgré nos imperfections, malgré nos mauvaises pensées, il est celui-là même qui nous écoute. Ainsi, le Seigneur nous donne une mission. Alors, c'est très surprenant, lorsque je préparais le message, j'ai vu que Sambala dit « On raconte parmi les nations ». J'aime la parole de Dieu parce que à chaque fois que je la lis, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, je vois Jésus. Jésus dit, allez faites de toutes les nations. Ah, le diable est un menteur. On raconte dans toutes les nations. Jésus vient te dire, allez faites de toutes les nations les disciples. C'est un commandement que Dieu nous donne. Et dans le même commandement, il dit, apprenez-leur à obéir. Mes chers amis, celui qui apprend à obéir aux autres doit lui-même être obéissant. Ça n'a aucun sens d'aller dire à quelqu'un, ne mens pas, et de se retourner et de mentir. Le premier qui doit être obéissant, c'est celui qui annonce l'obéissance. Ainsi donc, dans Marc 16, Jésus rappelle, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Donc l'annonce de l'évangile emmène aussi la guérison des malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Gloire à Jésus. L'annonce de l'évangile emmène aussi le fait de chasser les démons. Néhémie est un homme obéissant. Il est passé de celui qui goûtait les plats du roi à gouverneur. Mais je ne sais pas si vous avez vu qu'il n'y a eu aucun changement en lui d'humilité. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Malgré le fait que désormais, il avait une place plus élevée que ce qu'il avait avant. Mais il est resté attaché à ce Dieu. Si tu es attaqué par le diable, si le diable te pousse à mentir, il est temps de te lever pour dire que maintenant ça s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Maintenant, mon désir est de plaire à Jésus. Uniquement à Jésus. Oh, mes chers amis, cet ennemi est très malin. Il est très malin. Très subtil. Après avoir mis le mensonge en avant, que va-t-il faire dans une deuxième partie? À partir des versets 10, Néhémie fait quelque chose de normal. Il se rend chez Maja, qui celui-là même est un Lévite. Il va vers une synagogue, il va voir celui qui est Lévite, et qu'est-ce qui arrive? Celui qui est Lévite va lui dire, non, viens, on va entrer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, nous allons être protégés. Je rappelle que le Lévite avait une fonction sacerdotale, comme il nous est rappelé dans Nombre 18, versets 1 à 7. Les Lévites font partie des enfants de Jacob, et les Lévites étaient ceux qui étaient là pour travailler dans le temple. Jacob avait 12 enfants qui forment les 12 tribus d'Israël et les Lévites avaient une tâche particulière. L'Éternel dit à Aaron, c'est toi et tes fils ainsi que ta famille qui supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente de témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire ni de l'autel. Sinon, vous mourrez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre ou tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites, donnés à l'Éternel. Ils sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est un pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. c'est très important de connaître la culture juive pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Dans Nombre 17, vous pourrez voir en fait toute la panoplie des 12 enfants de Jacob et quelle était la fonction de chaque enfant. Et je remercie le Seigneur parce que lorsque Christ arrive, il prend 12 apôtres. Mais voyez-vous, celui qui est croyant retrouve tous les attributs des 12 d'Israël en Jésus-Christ. Parce que désormais, tu es aussi Lévite. Parce que désormais, tu es aussi de la tribu de Dan. Parce que désormais, tu es aussi de la tribu de Judas. Parce que Jésus a payé à la croix pour chacun d'entre nous. Et il a reconstitué un peuple. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Connaissant cette parole, Néhémie ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire, puisque vous voyez qu'il était dit que celui qui entre ou celui qui s'approche, il meurt instantanément. L'obéissance, c'est de croire en ce que Dieu dit. Je n'ai pas besoin de chercher une interprétation à dire, mais si j'entre et je me tiens à un pas de l'autel, peut-être que Dieu m'épargnera. Mais si j'entre et je me tiens juste à la porte, devant le rideau du tabernacle, dans le sanctuaire, peut-être que Dieu m'épargnera. Non, ça, quand les peut-être arrivent là, ça veut dire que le diable est en train de susciter quelque chose en toi. Quand Dieu dit, je crois. Tout ce que Dieu dit est vérité. Ce n'est pas un homme. Et sa parole est là pour que nous puissions obéir. Mais le diable essaie de mettre des semences en nous. Parce que justement, vous remarquez que la difficulté est dans la lecture de la parole de Dieu. On peut lire des magazines, on peut lire des livres, on peut les absorber même en 2 heures. Mais quand on commence à attaquer un chapitre de Malachie, ah là là, on se souvient qu'on a laissé du yaourt dans le frigo, on se souvient qu'on n'a pas repassé une chemise, le diable attaque. Et le diable attaque de telle sorte que des fois, il peut être curieux de retrouver, même dans l'assemblée, parfois des citations qui ne sont pas bibliques. Des fois, en discutant, on peut dire « le linge sale se lave en famille ». Vous connaissez cette expression ? Le linge sale se lave en famille. C'est pas biblique. C'est pas un verset. C'est du monde. Ce n'est pas biblique, ces choses. Et du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est parce que Néhémie connaissait cette interdiction que Dieu avait faite qu'il a dit. Je vous rappelle que Shemacha avait autorité. Shemacha avait autorité. C'est comme si moi, Jérémia et Didier venant vous dire, ah bien, allons nous réfugier dans l'église parce que nous sommes attaqués et que vous nous rétorquez, mais le Seigneur, le lion de Judée est toujours avec moi. Pourquoi veux-tu que je fuis? Alléluia. À partir du moment où on cite la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est une vérité qui entre dans nos vies pour nous transformer. Le Seigneur nous avait prévenu. Dans Matthieu 24, il a dit, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir des faux Christ, des faux prophètes, parce que déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 13, les versets 22 à 23, on avait déjà cette problématique d'usurpation satanique, parce que ce sont des usurpations que le malin fait. Verset 22, Ézéchiel 13. Vous découragez le juste par des mensonges, alors que moi-même je ne l'ai pas attristé. Et vous encouragez le méchant, l'empêchant ainsi de renoncer à sa mauvaise conduite et de conserver la vie. C'est pourquoi vous n'aurez plus de fausses visions et vous ne transmettrez plus de prédictions. Je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. La fausse prophétie existe depuis le début. Et qui est le premier faux prophète? C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan lorsqu'il s'adresse à Adam et Ève dans le jardin. Il glisse un mensonge
mais qui semble être cohérent. Attention à la cohérence qu'on peut avoir dans certains textes et à se demander si réellement c'est la volonté que Dieu veut. Le Seigneur a permis que dans le Nouveau Testament, un autre homme soit touché par ce thème de la fausse prophétie dans 1 Timothée 4, versets 1 à 5, il est dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Là aussi, ces textes peuvent nous prendre des heures à comprendre. Tout est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Ça nous incite à prier lorsque nous prenons des aliments. Mais ça nous incite aussi à bien regarder la parole de Dieu pour être sûr que nous sommes en cohérence avec la pensée du Seigneur. Aujourd'hui encore, mes chers amis, chers bien-aimés, il y a des églises dans lesquelles on marie des hommes et des femmes homosexuels. Et on utilise 1 Corinthiens 13 pour dire « L'amour est au-dessus de tout. » Et voilà. Et voilà les sémagins qui reviennent. Et voilà les prophétesses Noadia qui reviennent avec des mensonges. Et dans ces églises-là, mes chers amis, si je prends ma Bible pour y aller pour leur dire « Mais c'est interdit par le Seigneur, mariage homme-homme-femme-femme, c'est interdit !» Dieu a-t-il changé? Ah bon? Ah donc il a changé, il n'y a qu'à vous qu'il a dit. Hein. Donc il a refait une Bible, il n'a parlé qu'à certaines personnes pour dire, et ils le font où? Dans la maison de Dieu. Mais allez dans les mairies. Pourquoi vous utilisez le temple, la maison de Dieu, pour venir dire, on peut faire des mariages homosexuels? Vous voyez comment le diable agit? Et on peut penser que c'est une nouveauté. Mais non, ce n'est pas une nouveauté. Mais non! Dans l'Ancien Testament, on avait déjà ça. À Sodome et Gomorre, les hommes et les femmes se mariaient. Il n'y a rien de nouveau. Mais aujourd'hui, le diable veut faire croire qu'il faut que ta conscience évolue. Tu dois évoluer. Ah bon, pour repartir à Sodome et Gomorre? Déjà, faut-il connaître l'histoire de Sodome et Gomorre? Vous voyez comment le diable agit? Il vient toujours. Une révélation ce matin. L'intelligence du diable n'est pas renouvelée. Ce n'est que l'intelligence de ceux qui sont en contact avec Dieu qui est renouvelée. Le diable n'utilisera jamais de nouvelles recettes. Ce sont les mêmes qu'il a utilisées depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin. Parce que son intelligence ne peut pas avancer. Impossible. Et voici. On nous présente des églises aussi dans lesquelles on interdit aux hommes de se marier. Tiens, c'est curieux. Comment est-ce possible d'avoir une église dans laquelle on va interdire aux gens de se marier et d'utiliser la Bible pendant le mariage? C'est curieux, hein? Il y a des textes qu'on ne lit pas. 1 Timothée 4, à la fin des temps, quand on va interdire aux hommes de se marier, ce sont des doctrines des démons, parce que les démons ont aussi des doctrines, mes chers amis. Ils ont des fausses doctrines. Ainsi donc, ils attaquent en utilisant la doctrine du jézabélisme, en utilisant la doctrine des Nicolaïtes. Tout ça, vous le retrouvez dans Apocalypse 3, quand Jésus parle aux sept églises. Les Nicolaïtes aujourd'hui, c'est qui? Les francs-maçons. Ça, c'est les Nicolaïtes. Tout est dans le pouvoir. Tu as du pouvoir. Tu peux tout faire avec ton pouvoir. Ton intelligence te place au-dessus des autres. Toutes ces bêtises qu'ils racontent tous les jours, en faisant croire que ce sont des gens de bien, c'est le diable en action. Apocalypse 18, verset 3, il est dit, sortez du milieu d'eux. Une révélation ce matin. Si quelqu'un est franc-maçon, va à l'église tous les dimanches, il ira en enfer. Il ira en enfer. S'il ne se convertit pas, il ira en enfer. Parce qu'il a contribué à l'établissement du royaume de Satan sur cette terre. On ne peut pas contredire Dieu. Il est impossible de contredire Dieu. Et j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce que aujourd'hui encore, il vient à nous. Aujourd'hui encore, il nous permet d'avoir des temps de prière dans nos maisons. Aujourd'hui encore, il nous permet d'avoir une famille en Christ. Aujourd'hui encore, il veut que tu sois comme un juif entouré de ta culture. Le vrai juif est l'adorateur. Et aujourd'hui encore, dans ta maison, adore le Seigneur depuis le matin. Oh, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui encore, sur YouTube, avec ton téléphone, tu peux retrouver des chants chrétiens. Depuis le matin, tu peux mettre de la louange. Tu peux mettre une prédication le matin. Aujourd'hui encore, tu peux regarder des films chrétiens. La connaissance, c'est lire la parole de Dieu. Mais c'est aussi peut-être des fois regarder un film. C'est peut-être regarder un dessin animé chrétien avec ses enfants. Peut-être que tu pourras voir l'histoire de Néhémie en dessin animé. Mais toutes ces choses sont très importantes parce qu'il faut sortir du milieu, du monde. TF1, M6, ça peut être intéressant à regarder. Mais qu'est-ce que tu apprends? Le péché dans le monde, mais oui, ça tu sais déjà. Qu'apprends-tu d'autre? Entre dans ce lieu où le Seigneur te voit et le Seigneur prend plaisir à te voir parce que tu le cherches. Et Dieu nous a donné tous les instruments, surtout nous, mes chers amis, aujourd'hui. Nous avons tous les instruments technologiques pour passer du temps avec Dieu. Et combien de temps passons-nous avec Dieu? Ceux qui nous ont précédés n'avaient pas la Bible. Ceux qui nous ont précédés n'avaient pas de smartphone. Ceux qui nous ont précédés n'avaient pas de Wi-Fi. Connexion Internet illimitée. Grâce de Dieu. Au fait, quand même attention, parce que ce qui me surprend, c'est que un opérateur comme Free, pour appeler la messagerie, il faut faire 660. Mais il faut toujours mettre le sang de Jésus, parce qu'on souffre quand même. Je pense que cet homme est sataniste, absolument. Je pense. Désormais, habille-toi de la parole de Dieu. Et je termine cette prédication par vous rappeler que tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin encore, je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, il n'est pas trop tard. Il est temps. Il est temps parce que maintenant, je vais te dire les 7 phrases prononcées par Jésus à la croix. Vous savez, Jésus, il est d'une précision, c'est extraordinaire. À la croix, il a dit 7 phrases. 7 phrases précises. Ça vous rappelle les 7 jours de la création. Il a dit dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Faites prière pour toi et moi. Dans Luc 23, 43, il a dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus te dit, « En vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est pour toi et moi. Dans Jean 19, 26 à 27, il a dit, « Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple aimé, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Une communauté de croyants, au nom de Jésus. Dans Matthieu 27, 46, il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette souffrance, c'est pour toi et moi. » La souffrance du Christ. Dans Jean 19, 28, il a dit, « J'ai soif. » Pour te montrer combien Jésus était à l'agonie. Pour te permettre de ne plus regarder TF1 tous les jours, Jésus était à l'agonie. Pour que tu sortes de l'esclavage du monde. Jésus était à la croix. Dans Jean 19, 30, il a dit, tout est accompli. Oh, mes amis, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Parce que je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. Parce que je n'ai pas besoin de chercher un homme. tout est accompli en Jésus-Christ. Et sa dernière parole, Luc 23, 46, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mes amis, il ne faut pas attendre de mourir pour dire ça. C'est maintenant qu'il faut dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains pour que tu me diriges. Je renouvelle ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse richement. Dieu nous a tant bénis. Amen. Thank you.